J'ai prié ce matin, réfléchir, méditer avec vous autour du thème à la redécouverte de la sainteté, à la redécouverte de la sainteté pour la plénitude de la vie chrétienne. À la redécouverte de la sainteté pour la plénitude de la vie chrétienne. Bien-aimés, le message de ce matin me concerne et te concerne toi aussi. Je me suis réveillé ce matin à 3h30. Et j'ai pris du temps à prier pour moi-même. J'ai pris du temps à prier pour toi. Pour que nous puissions comprendre que l'existence chrétienne, en tant que telle, ne vaut rien, ne représente absolument rien, si nous ne recherchons pas la sanctification. Alléluia. Le passage que nous avons lu dans Psaume 15 pose une question. Qui montera au ciel? Qui sera reçu à la montagne sainte? Il y a une description des types de personnes qui pourront demeurer sur la montagne sainte. Nous avons l'habitude de chanter un cantique qui dit « Je vais monter sur la montagne ». C'est quoi? C'est là qu'on rencontre le Seigneur. Donc, être élevé au niveau de ce qui est terre à terre, au niveau de ce qui embarrasse ma marche sur la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, sur ma trajectoire en tant qu'appelé pour servir le Seigneur, il faut, bien aimé, respecter les règles du jeu. Les Écritures sont très claires et ne marchandent pas du tout par rapport à la consécration ou à la sainteté. Parce que quand vous lisez Matthieu chapitre 7, verset 21, il est clairement dit, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il continue en disant, plusieurs ce jour-là me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Mais je leur dirai, sortez, allez loin de moi, parce que vous commettez l'iniquité. En d'autres termes, commettre l'iniquité, ou alors continuer à commettre l'iniquité, est une marque caractéristique d'une vie qui n'est pas transformée. Et donc une vie qui ne va pas être admise dans le royaume de Dieu. Si vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 et verset 7, la parole de Dieu dit que ce que Dieu veut, ou alors la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Et au verset 7, il est clairement dit, en effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais plutôt, il nous a appelés à la sainteté. Quiconque rejette cette parole ne rejette pas un homme, mais rejette plutôt Dieu lui-même. Donc, rejeter la sanctification ou ne pas vivre selon cet appel à la sanctification, c'est rejeter automatiquement, ipso facto, rejeter Dieu lui-même. Dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 14 que nous venions de lire, nous dit « Ne vous conformez pas aux convoitises d'autrefois. Si dans votre vie, il n'y a pas une autre fois, et maintenant, il y a des choses qu'il faut corriger. Il faut qu'il y ait une ligne de démarcation entre l'autre fois qui j'étais et qui je suis devenu par le fait d'appartenir à Christ. Ne vous conformez pas aux convoitises d'autrefois du temps de votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saint dans combien de choses? Dans toute votre conduite. À la cuisine, être sainte. Au moulin, être sainte. Au marché, être saint ou saint. À l'hôpital, si tu travailles comme infirmier ou infirmière. À l'école, si tu travailles comme enseignant. À l'université, dans les milieux de travail, au quartier, dans tout ce que je fais, le Seigneur nous invite à la sainteté. La sainteté, bien-aimée, est la perle de la vie chrétienne. Parce que c'est par elle que tout consacré à l'Éternel ou tout croyant témoigne que sa consécration à Dieu est visible. Alléluia. Aucune vie, vraiment aucune vie, n'apporte une signification profonde sur cette terre ou ne laisse des traces ineffaçables sur cette terre, n'a de signification que dans la mesure où cette vie est inscrite dans cet appel à la sainteté. Même notre stabilité en dépend. C'est ce que le psalmiste a dit. Il dit qui agit ainsi reste inébranlable. Il appelle l'homme à une conduite intègre, à pratiquer la justice, à avoir des pensées qui sont honnêtes. Même au niveau des pensées, nous pouvons pécher et nous mettre, nous continuons à croire que nous n'avons pas péché. Aujourd'hui, à cause des situations économiques très difficiles, il y a des jeunes couples où la femme devient enceinte. Et parce qu'on n'a pas les moyens, on dit à la maman, avorte. Si la maman ne résiste pas, l'avortement peut avoir lieu. Et pourtant, ces couples-là sont des couples chrétiens. Ils prennent la Sainte Cène. Mais parce que pour des raisons économiques, il y a des situations difficiles, on se dit... La solution, c'est laquelle? L'avortement. Il y en a pour lesquels c'est arrivé, il y en a pour lesquels ce n'est pas arrivé. Mais au fait que ça est arrivé au niveau de la pensée, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Comment un chrétien peut demander à sa femme d'avorter? Comment? Quelles sollicitations on voit les jeunes filles solliciter au sexe, même si la fille a refusé. Mais le fait que tu as sollicité, tu as péché. Tu as péché. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas eu acte. Non. Les pensées n'ont pas été pures. Et parce qu'il en était ainsi, tu as risqué de pécher, mais en fait, tu n'as pas risqué de pécher, mais en fait, tu as péché. J'étais à Uri un moment dans un conseil de faculté, on cite les noms des étudiants qui ont triché. Et l'un des étudiants de ma paroisse. J'ai dit, comment un étudiant de ma paroisse peut être sur la liste des tricheurs? Il y a bien des situations qui arrivent et les gens le font parce qu'ils disent tout le monde le fait. Non, ce n'est pas parce que tout le monde le fait. Que ça doit être ça. Vous signez un contrat, vous vous engagez, mais à un moment donné, vous vous rétractez. Le texte que nous avons lu dit qu'il n'a pas laissé courir sa langue, il ne fait tort aux autres, il n'y outrageait son prochain, son verset 3. Mais au verset 4, il dit à ses yeux, il a réprouvé un misérable, il honore ceux qui craignent le Seigneur. Il se fait-il tort dans un serment, il ne se rétracte pas. Il a fait un serment, et pour avoir fait un serment, il doit faire quoi? Il doit les garder. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il doit garder ce serment-là. Tu as signé un contrat, tu dois les garder. Tu as donné une parole, tu dois respecter la parole donnée. Et si tu ne le fais pas, tu as péché. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tout le monde le fait que nous sommes obligés de le faire. Nous sommes appelés à défendre notre identité chrétienne. Sommes-nous chrétiens? Alors vivons-les. Faisons le meilleur de nous-mêmes pour défendre cette identité que nous avons. Je m'adresse à moi-même, mais j'adresse aussi à chacun d'entre vous. La sainteté est la porte d'accès au royaume de Dieu. Beaucoup de gens se contentent d'avoir les noms enregistrés dans les registres de l'Église. Ils reconnaissent un jour qu'ils ont été baptisés. Il y en a même qui connaissent les jours où ils se sont convertis. Ils connaissent même la personne qui a prêché. Ils reconnaissent même le message qui a été annoncé. Mais comment vivent-ils en fonction de ces messages-là? J'ai appris il y a quelques mois qu'il y en a même membres de ma paroisse qui, après les cultes, vont quelque part, ils vont voir. Après les cultes. Est-ce qu'on peut voir après les cultes? Et il y en a, semble-t-il, qui disent même notre révérend est informé. Ah bon? Mais s'il est informé et qu'il vous demande d'abandonner, vous ne le laissez pas. À qui la faute? C'est pas au révérend. Pour être un homme ou une femme que le Seigneur utilise, ou que le Seigneur veut employer, le point de départ, c'est la sanctification. C'est la consécration au Seigneur. La question à laquelle ce message veut répondre ce matin est double. Qu'est-ce que la sainteté? Deuxièmement, que dois-je faire pour faire l'expérience de la sainteté dans ma vie? Je voudrais commencer par dire que la sainteté n'est pas une question de morale. Ce n'est pas un projet de perfectionnement individuel. J'ai l'habitude de poser des questions aux gens. Je pose la question à quelqu'un, je dis, comment va ta relation avec le Seigneur? Il dit, pasteur, j'essaie de faire de mon mieux. Si tu essaies de faire de ton mieux, t'en boucle. Parce que tu risqueras de sauver les apparences. Tu risqueras de traiter la vie chrétienne comme une question des apparences extérieures. Tu rechercheras la moralité. Mais que dit pasteur, j'ai parlé des interdits. Le christianisme ne nous a pas rendu un bon service où les missionnaires, parce qu'ils ont dit, ils nous ont dit ce qui est interdit, mais ils n'ont jamais dit ce qui est permis. Le chrétien ne boit pas. Le chrétien ne fume pas. Le chrétien ne va pas au bar. Il y a un moment, on disait, le chrétien ne porte pas un jeans. C'est pourquoi je ne prêche pas en portant un jeans. Le chrétien ne met pas un chapeau sur sa tête. La chrétienne ne tresse pas les cheveux. Vous n'êtes pas des chrétiens, ici à Goma. Parce que vous allez au salon. Il y en a qui croient qu'effectivement, quand on est chrétien, on ne va pas où? On ne va pas au salon. On ne peut pas chanter sans le foulard sur la tête.
Sinon, il n'y a pas de gloire de Dieu et Dieu ne va pas accepter vos cantiques.
Le chrétien ne fait pas, ne fait pas.
Et il y en a effectivement qui ont cru qu'ils sont chrétiens, surtout ceux de la CBK, qui sont chrétiens parce qu'ils n'ont jamais bu. Du fait qu'ils n'ont jamais pris une goutte d'alcool dans leur bouche, en tout cas, le ciel est comment? Grandement ouvert. Du fait qu'il n'a jamais fumé, en tout cas, il est en ordre. S'il n'a jamais commis l'adultère, il est le meilleur chrétien que le monde n'a jamais connu. Mais même ne faisant pas ça, ce sont ces mêmes personnes qui ont des gens qui haïssent, qui ont des gens qui ne saluent pas, qui refusent même de pardonner, même si Jésus vient lui dire pardonne et dit yes, je ne peux pas pardonner ça. Alors cette question de moralité, ce n'est pas la sainteté. Vous pouvez faire de votre mieux sans parvenir à la sainteté. Si vous lisez Romains chapitre 7, il y a là un combat où Paul dit « Je fais ce que je ne veux pas. » N'est-ce pas? Le bien que je voulais faire n'est pas l'apanage de moi-même, parce qu'on n'est pas capable de se faire soi-même de faire ce qui est bien, ce que le Seigneur attend, sans l'assistance du Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. La sainteté n'est pas la perfection absolue, parce que cette perfection absolue, c'est l'apanage de Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui est parfait sur toute la ligne. Nous, on ne peut pas être parfait. Et n'est pas non plus le résultat d'expériences accumulées tout au long de la vie, au point qu'à la fin de votre vie, on vous proclame saint. Parce qu'il y a aujourd'hui des chrétiens qui pensent que quand nous arriverons au ciel, le Seigneur a une balance. Et il va inviter chacun, il va inviter chacun de nous. Toi, viens ici, tu viens, alors on dit, bon, on regarde les péchés que tu as commis. C'est combien de kilos? C'est 40. Si tu as fait du bien 60%, tu peux entrer, n'est-ce pas? Parce qu'il ne tient qu'à 60%. Il fait quoi? Il passe. Même s'il a trois échecs, il passe sans problème. C'est ça la règle. Non, il n'y a pas de balance sociale. Ce n'est pas le résultat d'expérience accumulée tout au long de la vie chrétienne. Et là, plutôt, on va le voir tout à l'heure, il n'y a pas un jury qui va prononcer qui sont saints et qui ne le sont pas. À ce moment-là, il n'y a que des saints qui entreront. Et comment sont-ils rendus saints? L'Église catholique a ce qu'on appelle la béatification. N'est-ce pas? Les personnes qui sont mortes et qui ont vécu une vie exemplaire, il y a un jury qui se réunit qui dit cette personne-là est béatifiée. En quoi proclamer saint? La Bible ne le dit pas. La sainteté n'est pas non plus une fuite du monde. On fuit le monde impur pour se réfugier quelque part et on se dit que là, on va chercher la sainteté. Il y en a qui ne fréquentent pas les autres parce qu'ils sont impurs. Il y en a qui, en tout cas, il y a des personnes avec lesquelles ils ne peuvent pas se mettre parce que ces gens-là ne sont pas saints. Non, ce n'est pas ça la sainteté. La Bible définit la sainteté selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Il y a ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints, avec tout ce qui invoque en tout lieu le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a ceux qui ont été sanctifiés en qui? En Christ Jésus. Et qui sont appelés à être saints. On devient saint comment? Lorsqu'on est en Christ. Lorsque notre vie est cassée en Christ et que Christ est en nous, à ce moment, nous sommes sanctifiés. Nous sommes mis à part pour appartenir à Dieu. Mais dans le Bible, chapitre 1, verset 3 à 4, il est dit que par Jésus, nous sommes participants à la nature divine. C'est-à-dire que nous sommes réellement saints par le fait que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous sommes participants à la nature divine. Nous sommes réellement saints. Et parce que nous sommes réellement saints, participants à la nature divine, dans le même verset, on dit, nous devons fuir la corruption qui agit par la convoitise dans le monde. Alors le terme sanctifié signifie dédié, consacré au Seigneur. En d'autres termes, il signifie celui qui est séparé du reste des pécheurs, celui qui est mis à part pour appartenir à Dieu, mais rendu aussi différent pour vivre exclusivement pour Dieu. Alors les saints, c'est qui? C'est toi et moi. Si vous avez écouté la bonne nouvelle un jour, nous avons adhéré à Christ et nous avons décidé que Christ devienne notre Seigneur et Sauveur personnel. La première chose qu'il fait, il nous délivre de tous nos péchés. Il nous lave, il nous purifie de tout péché et nous rend purs aux yeux de Dieu, juste devant les yeux de Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire aux gens, Les lunettes à travers lesquelles Dieu nous regarde, c'est la justice du Christ. Ce n'est pas notre justice. Et c'est ça qui fait de nous les saints. Et saint donc celui qui vit comme appartenant à Dieu et membre de son peuple. Alors comment devrions-nous maintenant vivre pratiquement la sainteté? La première chose, et nous trouvons cela dans Matthieu 22, verset 36 à 39, un des justes s'adresse à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Jésus dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras le prochain comme toi-même. L'appel à la sainteté, qui est donc un appel à la plénitude de la vie chrétienne, c'est un appel fondamentalement, prioritairement à aimer Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, au niveau de tes émotions, tes sentiments, de toute ta force, ton énergie, déployée pour témoigner que tu aimes le Seigneur. De toute ton intelligence, tu mets en action ton intelligence pour montrer que tu aimes le Seigneur. L'Esprit de Dieu a été envoyé en nous, si nous sommes devenus des croyants, pour nous pousser intérieurement, là je suis sur le terme intérieurement, pour nous pousser intérieurement à aimer Dieu. De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence et de toutes nos forces. Or, cet amour de Dieu exigera que nous puissions nous consacrer notre temps à Dieu. Je l'ai dit aux jeunes la fois passée à Idi. Le temps est le trésor le plus précieux que Dieu donne à chacun de nous. Personne n'a plus grand que l'autre. Nous tous avons le même temps. Le président de la République a 24 heures par jour. N'est-ce pas? Et celui qui pousse les tchikoudous, il a combien d'heures par jour? 24 heures par jour. Personne n'aura une portion plus grande que l'autre. Nous tous avons les mêmes 24 heures par jour. C'est la manière de gérer ce temps, les 24 heures que Dieu nous donne. Les 7 jours de la semaine que Dieu nous donne. Les 30-31 jours du mois que Dieu nous donne. Les 12 mois de l'année que Dieu nous donne. Qui mesurera? Qui va jauger? Quelle place Dieu occupe dans notre vie. Je disais donc que le temps est la portion et le trésor le plus précieux que Dieu nous donne. Parce que si le temps s'arrête, tout s'arrête, tout s'arrête. Même les plus grands projets s'arrêtent. Il y a eu des gens qui ont préparé le mariage. Même un de ses fiancés est mort à la veille. Le mariage a eu lieu. Non. Donc lorsque nous réfléchissons devant savoir, avant de commencer à poser des questions, qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Le Seigneur te donne quoi? Du temps. Et te donne aussi la vie. Ce sont les deux choses dont nous allons parler tout de suite. Donc, ce temps-là que le Seigneur te donne, il faut savoir qu'il est aussi limité. Quand nous consacrons du temps à quelqu'un, c'est-à-dire que nous l'aimons. Les fiancés consacrent beaucoup de temps à leurs fiancés, n'est-ce pas? Et quand on devient marié, on n'a plus de temps. Ouais. D'ailleurs, mon épouse m'accuse que je n'ai pas le temps. J'ai le temps pour l'église, je n'ai pas le temps pour elle. L'Église, aidez-moi à avoir le temps pour eux. Quand nous consacrons du temps à quelqu'un, nous lui consacrons une partie de notre vie. Consacrer du temps à Dieu, c'est la chose la plus, aussi une chose importante qui témoigne que nous sommes consacrés à lui. Combien de temps, sur les 24 heures, vous donnez à Dieu par jour? Il y a des gens ici qui ne vont jamais à la cellule. Jamais. Et ils ont toujours des arguments. Comme ils parlent français, ils en ont. Il y a des mamans qui n'ont jamais été au séminaire des mamans de mardi. Elles sont tranquilles. Elles vont aussi aller au ciel. Elles disent qu'elles vont aller au ciel. Peut-être. Il y en a qui ne viennent pas au séminaire de mercredi. À l'étude publique, pas de temps. Même Dieu sait que je n'ai pas de temps. Même Dieu, ils disent aussi que Dieu sait qu'ils n'ont pas de temps. Pourtant, qui leur a prêté ce temps-là? C'est Dieu. Ça peut arriver que vous êtes occupés. Ça, je ne refuse pas, nous sommes en ville, les gens travaillent beaucoup et ça, c'est normal. Mais ne refuse qu'avoir un temps que vous dites. Ce temps ici, il est réservé pour ça, pendant la semaine. Lesquels vous avez déjà mis à part? Les élèves, les étudiants n'en parleront pas. Parce qu'à la jeunesse, on rencontre 6 personnes qui viennent au séminaire des jeunes, alors qu'ils sont plus d'une centaine. Les autres sont où? Les autres n'ont pas le temps. Mais ils ont quand même le temps pour les réseaux sociaux. Là, ils ont le temps. Ça prend beaucoup de temps et ils en ont. Bien-aimés, consacrer du temps à Dieu dans la méditation de sa parole chaque matin, avant même de commencer toute autre activité le matin, dans notre engagement de servir pendant la semaine, ne sera possible que si nous avons fait une découverte importante, notre temps vient de Dieu. Et nous devons le lui rendre. Alléluia. Notre temps vient de Dieu parce que tout peut s'arrêter. Ce souffle-là que tu as, pour les gérer n'importe comment, c'est Dieu qui met ce souffle-là. Mais il te donne rendez-vous, même pour venir l'adorer au culte le dimanche, tu n'es jamais venu en temps. C'est normal. Mais quand tu as le rendez-vous avec ton chef de service, tu viens 10 minutes avant. Mais Dieu, non. Comme c'est un oncle, ou c'est un cousin, mais peut-être même un grand-père, parce que grand-père, en tout cas, on peut jouer avec lui. Deuxième chose, notre vie. Notre vie vient de lui. Et nous devons la lui rendre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ce que nous sommes, ce que nous avons, vient de lui. Ton salaire vient de lui. Ton revenu mensuel vient de lui. Les pieds que tu as viennent de lui. Parce que tu peux trébucher à un moment donné, tu n'as plus tous les deux pieds. Nos mains, nos yeux, nos oreilles, notre bouche, tout, même notre sexe, tout cela est un don de la grâce du Seigneur. Tout doit revenir. Notre travail, c'est ça. Il y en a qui sont au chômage, qui pleurent depuis des années, n'ont pas de travail. Tout cela doit revenir. Et bien donc Dieu s'exprime dans le fait de savoir comment nous gérons notre temps, comment nous gérons notre vie, mais aussi comment nous gérons nos relations avec les frères et les sœurs avec qui nous partageons la vie de foi. La parole de Dieu nous a dit dans 1 Pierre que, au verset 22, vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour pratiquer un amour fraternel sans hypocrisie, aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur avec constance. Un amour sans hypocrisie, un amour sincère. C'est cet amour-là auquel le Seigneur nous invite. Cet amour doit être pratique, pragmatique. Il ne faut pas dire à quelqu'un qui est malade, vraiment même si elle ne vient pas te voir, je suis en train de prier pour toi, alors que tu ne pries même pas. Ça doit être pratique. Cet amour dont nous avons reçu, que nous avons reçu de Dieu, doit se répandre sur les frères et les sœurs avec qui nous partageons la même foi et la même espérance. Parce que la sainteté n'est pas une réalité qu'on vit dans le privé. La sainteté se vit à l'intérieur et au profit de la communauté à laquelle nous appartenons. Martin Luther a dit, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères et des sœurs, dans l'amour. Sinon, nous mourrons tous comme des idiots. Nous devons apprendre à vivre ensemble avec tes frères et sœurs et nous aimer. Sinon, nous mourrons tous ensemble comme des idiots. Cet amour doit voir ce qui peut faire du bien à l'autre. Est-il à deuil? Est-il en situation de deuil? N'a-t-il rien à manger? Est-il malade? Bien aimé, cette situation te concerne. Tant que tu peux visiter que ceux qui sont de ta tribu, tant que tu peux fréquenter que ceux qui sont de ta tribu, c'est-à-dire que tu n'as pas compris que nous partageons tous la même foi et la même espérance. Deuxième chose, c'est dit dans les textes que nous avons lus, garder notre esprit en éveil. C'est-à-dire pour vivre cette sanctification, il faut être prêt à tout instant, dans différentes circonstances de la vie, à discerner ce qui plaît au Seigneur, ce que le Seigneur voudrait que je fasse. L'appel à la sainteté doit avoir un effet non seulement sur mes émotions, mais aussi sur les détails, même les moindres détails de la vie de chaque jour, sur mon travail. Il m'est demandé d'être au service pendant 8 heures. Est-ce que j'ai travaillé pendant 8 heures? Ou j'ai fait 8 heures au service? Les salaires que je gagne, est-ce que j'ai vraiment mérité? J'ai travaillé pour ces salaires. Comment je traite mes collaborateurs? Comment tu traites la fille qui garde tes enfants? Vous les appelez comment? Les bergères. Père, c'est ton enfant. Comment tu la traites? Comment tu traites ton domestique? Comment tu traites tes enfants? Comment tu considères tes parents? Comment tu traites ton épouse? Comment tu traites ton employeur? Et les contrats qui te lient à lui. Proverbe chapitre 4, verset 18 dit, le chemin des justes est comme une lumière resplendissante qui va croissante jusqu'au point du jour. Il ajoute que le chemin des méchants, c'est l'obscurité. Ils ne savent pas ce qui peut les faire. Garder du discernement, rester vigilant, c'est avoir, être en mesure de voir plus loin, dire ça peut me faire tomber. Beaucoup de gens ont commis des péchés parce qu'ils n'ont pas été vigilants. Ils n'ont pas constaté qu'ils étaient déjà entraînés sur une route de sainteté. Troisième chose, écouter la parole de Dieu entretient en nous la sainteté. La crainte respectueuse de Dieu ne vient pas automatique. Parce que plus nous laissons l'occasion à Dieu de nous parler, mieux
nous avons la capacité de découvrir même les erreurs que nous commettons.
Parce que la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Nous nous regardons dedans et nous constatons qu'il y a ça, il y a ça. Au fur et à mesure, nous sommes en train d'aller vers la voie de là. Mais si tu n'as pas le temps pour écouter le Seigneur te parler individuellement et mettre en pratique sa parole, parce qu'il faut obéir à cette parole, bien-aimé. Obéir, c'est se placer devant la parole de Dieu dans une attitude d'écoute, dans un respect dévolu à Dieu, parce que Dieu est en train de te parler et tu es prêt à faire ce que le Seigneur te donne. Mais quand tu arrives au point, tu ne peux plus même suivre les conseils de ton Créateur. Tu suivras les conseils de qui? De tes parents? Non, non. Selon 1 Pierre chapitre 1, le verset 22, vous avez été engendrés à nouveau par une semence, non pas corruptible, mais incorruptible par la parole de Dieu vivante et permanente. Cette parole-là, elle est appelée semence, elle est aussi appelée vivante et permanente. C'est-à-dire dans la précarité de notre vie, notre existence sur la terre, cette parole nous travaille. Par elle, Dieu nous ajuste. Par elle, Dieu nous façonne pour imprimer en nous le caractère de Dieu. Il y en a qui ont la grâce d'avoir ce caractère de Dieu parce qu'ils s'exposent à la parole de Dieu. Ils laissent la parole de Dieu les transformer parce qu'ils obéissent. Ça ne sert à rien d'écouter si on n'a pas le temps de mettre cette parole en pratique. C'est par cette parole que nous comprenons, que nous partageons ce que Dieu a de plus particulier et d'unique, sa sainteté, sa gloire. C'est cette parole qui va nous travailler. Alors pour finir, je vais conclure en disant ceci. Est-ce qu'il y a des gens qui ne prient pas ici? Qui a l'habitude de prier? Prier, je ne dis pas prier, je n'ai tout le temps, non, prier quand même. C'est nous tous, hein? Chacun de nous prie, n'est-ce pas? À Kinshasa, quand on voit quelqu'un avec une Bible, on pose la question. Hé, au Bandi Kosambela. C'est-à-dire que pour eux, quand quelqu'un a la Bible, c'est-à-dire qu'il prie. Donc chaque personne prie. Tout le monde prie. Même les kidnappeurs prient, n'est-ce pas? Ils prient pour qu'ils aient des victimes. Et quand ils les ont eu, ils croient que c'est qui les a aidés? C'est Dieu. Faux, c'est pas Dieu. Même les femmes prostituées prient. J'en ai trouvé un moment qui me sollicitait au sexe, j'étais en Afrique d'ici, qui me disait, est-ce que tu peux coucher avec moi? J'ai dit, madame, tu ne vois pas que j'ai vraiment une croisette, je suis pasteur. Mais Dieu aussi sait que c'est notre business. Tout le monde prie. Alors je voudrais terminer en disant ceci. Et ça se trouve au verset 17. Si vous invoquez comme père celui qui sans partialité juge comment? Juge chacun sans exception de personne. Dans certaines versions, n'est-ce pas? Sans discrimination, sans partialité. Jugez chacun selon quoi? Selon son œuvre. Je voudrais vous rappeler que nous tous qui invoquons le Seigneur, comme Père, nous devons savoir, nous devons reconnaître que Dieu est juste. Personne ne peut le tromper. Vous pouvez tromper vos parents, vous pouvez tromper n'importe qui. Dieu est juste. Et dans la conscience de chacun de nous, Dieu te parle. Ça c'est clair, Dieu parle à chacun de nous. Quelle que soit la voie où tu es en train d'être entraîné, Dieu est en train de te parler. Tu peux fermer les oreilles, tu peux fermer ton cœur, tu peux l'empêcher d'être sensible, mais en fait, Dieu te parle. Alors, il faut savoir que Dieu est juste. Et parce qu'il l'est, il juge chacun de nous, sans aucune partialité. Et il juge les œuvres dans lesquelles nous sommes entraînés. Nous devons donc veiller sur notre conduite et maintenir notre vie selon ce que Dieu veut. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, parce que Dieu jugera les actes de chacun d'entre nous. Et par ces œuvres là nous témoignons si nous sommes consacrés ou si nous ne sommes pas consacrés. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience que même si nous trompons les hommes, nous ne pouvons pas tromper Dieu. Que même tout ce que nous faisons en secret, Dieu le sait. Il te juge selon ce que tu... même au niveau des pensées, il te juge. Que le Seigneur nous aide à comprendre que la vie chrétienne en tant que telle n'est vie chrétienne que lorsque nous l'amenons dans la recherche inassouvie de la sainteté. Et Dieu est prêt à nous aider si nous sommes prêts à dire, Seigneur, viens à mon aide. Je voudrais prier avec toi si tu voudrais que le Seigneur t'accorde la grâce de vivre cette vie de la sanctification. Tu peux te mettre debout là où tu es, ou si tu es juste, tu peux te mettre à genoux là où tu es. Nous allons prier avec toi.